Bienvenue à l'échange.
Oui, et l'échange d'aujourd'hui s'inspire de la conférence DEFCON 2025 d'Autodesk qui a dessiné une vision pour le moins radicale de l'avenir du logiciel. Au cœur de cette vision, il y a un vrai basculement. On abandonnerait progressivement les applications traditionnelles, où l'humain clique et commande, pour aller vers un écosystème de plugins orchestrés par des agents d'intelligence artificielle, devenus autonomes.
La question qui se pose au fond, elle est fondamentale. Est-ce qu'on assiste au début d'une révolution ? Une révolution inévitable où l'IA dite agentique va complètement redéfinir la façon dont on crée, dont on interagit avec le logiciel. Ou bien, est-ce que cette vision, aussi séduisante soit-elle, n'est qu'une projection un peu futuriste qui ignore les obstacles bien réels de la fiabilité, de la confiance et de la complexité des métiers ? C'est ça qu'on va explorer. Je défendrai l'idée que le progrès, le vrai, réside dans une évolution plus mesurée, axée sur les fondations de données et l'augmentation des capacités humaines.
Et de mon côté, je soutiendrai que ce changement de paradigme est non seulement inéluctable, mais il est nécessaire. C'est pour moi la prochaine étape logique de notre évolution numérique, et ceux qui l'ignorent risquent de rester sur le bord de la route.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Vous parliez d'une étape nécessaire. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est à un point de rupture si fondamental ?
Parce que le modèle actuel a atteint ses limites. L'ère du pointer cliqué, elle nous a bien servi, mais elle est en train de s'achever. On entre dans un monde où notre interaction principale avec les machines ne passera plus par des icônes et des menus, mais par l'intermédiaire d'agents capables de raisonner, de planifier et d'exécuter des tâches complexes de bout en bout. La keynote de DEFCON était limpide là-dessus. La directrice technique, Raji Arasu, a pris un exemple simple, mais incroyablement parlant. La recherche d'un appartement. Aujourd'hui, c'est une corvée. On doit jongler entre 5, 6 applications. Demain, un agent unique consultera les annonces. Il filtrera selon nos goûts, il vérifiera la proximité du métro, il analysera les photos pour voir si la cuisine est ouverte, et il enverra un courrier pour organiser une visite. Voilà. Ce n'est plus de l'automatisation simple, c'est de l'orchestration complexe.
D'accord. L'exemple, il est très parlant pour le grand public, je vous l'accorde, mais j'ai du mal à y croire quand on passe à des applications professionnelles, des applications critiques. La vision d'un monde entièrement agentique est séduisante, oui, mais elle me semble passer sous silence les obstacles colossaux qui se dressent sur ce chemin. La fiabilité, la sécurité et surtout la confiance, ce ne sont pas des détails techniques à régler. Ce sont des prérequis absolus qui, aujourd'hui, sont très, très loin d'être acquis. Le même directeur technique que vous citez a d'ailleurs qualifié les agents qui s'auto-améliorent de « rêve un peu fou », un « pipe dream », a-t-il dit. Il a même précisé qu'un plugin qui échoue une seule fois ne sera plus jamais appelé par un agent. Ça révèle une fragilité systémique qui me semble rédhibitoire, en tout cas pour l'instant.
Oui, mais je vois les choses sous un autre angle. Cette fragilité, ce n'est pas un défaut, c'est une exigence de qualité. Ça va tirer tout l'écosystème vers le haut. Mais pour revenir à la complexité professionnelle, les preuves sont déjà là. Prenez le projet de l'hôpital Grand Paris Nord. Une IA a positionné les équipements dans 8000 pièces. Le résultat ? Un temps de conception divisé par deux. Ce n'est plus de la science-fiction. Ça signifie que la mission du développeur est en train de muter, en profondeur. Il ne s'agit plus de construire une application monolithique pour un utilisateur, mais de forger des compétences atomiques, des plugins intelligents, qui seront les briques de Lego d'un système de raisonnement machine. La valeur, en fait, se déplace de l'application vers l'API.
Pardon, mais cet argument ne me convainc qu'à moitié. L'exemple de l'hôpital est impressionnant, certes, mais pour une tâche très spécifique et très contrainte, le placement d'objets dans des pièces. Mais quid de la conception elle-même ? Je pense que l'accent devrait être mis sur les gains réels, immédiats, qui sont immenses et beaucoup moins risqués. Prenons le cas de l'entreprise Rumble, aussi présentée à la conférence. Leur problème était concret, coûteux, faire communiquer des logiciels Revit et Tekla. Ils ont créé un connecteur de données, un data exchange, qui a éliminé un processus manuel, fastidieux et source d'erreurs sans nom. C'est ça le progrès tangible. C'est une évolution pragmatique qui résout un problème aujourd'hui, pas une révolution hypothétique qui nous demande de tout réinventer.
Mais vous opposez deux choses qui sont, en réalité, les deux faces de la même pièce. Le travail de Rumble sur l'interopérabilité, ce n'est pas une alternative à la vision agentique, c'est la condition sine qua non de son existence. C'est la préparation de la piste de décollage. La keynote a martelé une idée essentielle, vous ne concevez plus pour les clics, vous concevez pour le raisonnement machine. Dans ce nouveau monde, le succès d'un logiciel ne se mesurera plus à la beauté de son interface, mais à la capacité de ses plugins à être appelables, composables et sémantiquement clairs pour une machine.
Justement, expliquez ce que vous entendez par sémantiquement clair pour une machine. C'est un concept important?
Bien sûr. Alors, pour être concret, aujourd'hui, un développeur crée un bouton « exporter en PDF ». Un humain le voit, comprend ce qu'il fait, il clique. Demain, ce bouton n'existera peut-être plus. À la place, le développeur créera une fonction, une API, avec une description si précise, sans aucune ambiguïté, qu'un agent IA pourra la découvrir, comprendre qu'elle sert à créer un document au format PDF à partir de ces données et l'intégrer dans une chaîne de tâches sans intervention humaine. Il ne s'agit plus de créer une belle poignée pour une main humaine, mais une poignée numérique parfaite pour un agent IA. Dans ce contexte, l'interface utilisateur, telle qu'on la connaît, elle devient un goulot d'étranglement. Elle ralentit tout.
L'interface n'est pas un instrument de création, d'exploration, d'intuition, plutôt qu'un simple goulot d'étranglement. L'acte de dessiner une esquisse sur une tablette n'est pas une tâche qu'on peut juste dicter à une IA.
C'est un point pertinent. Mais je ne parle pas de remplacer l'étincelle créative. Je parle d'éliminer toutes les frictions qui l'entourent. L'architecte ne devrait pas passer la moitié de son temps à s'assurer que ses plans sont conformes aux normes locales ou à mettre à jour des listes de matériel. L'agent IA peut gérer ça en arrière-plan. Ça libère l'humain pour qu'il se concentre sur l'intention, l'esthétique, la vision. L'interface ne disparaît pas totalement, elle change de rôle. Elle devient le point de dialogue initial pour définir l'intention et le cockpit de supervision finale.
Cockpit de supervision, le mot est bien choisi et il nous amène directement au cœur du problème. Car qui dit supervision dit nécessité de vérifier. Et cette supervision humaine nous ramène à la fiabilité et à la confiance. Si un ingénieur doit constamment vérifier le travail de l'agent sur une structure complexe, comme le pont de Sotra en Norvège, un projet avec 1 million d'objets uniques, où est le gain de productivité révolutionnaire qu'on nous promet? Le fait qu'Autodesk continue de développer des visualiseurs de modèles 3D ultra performants, comme le APS Viewer, prouve bien que l'interface homme-machine, pour la validation, pour l'inspection, reste absolument cruciale.
Absolument, mais ce défi de la confiance, ce n'est pas un obstacle insurmontable. C'est un problème d'ingénierie qui sera résolu. Le CTO a fait un parallèle très explicite avec le cloud. Au début des années 2000, les entreprises étaient terrifiées à l'idée de mettre leurs données en dehors de leurs serveurs. C'était impensable. Aujourd'hui, c'est la norme. Pourquoi ? Et parce que la valeur apportée en flexibilité, en collaboration, en puissance de calcul a fini par balayer les craintes. Il en sera de même pour l'IA agentique. La valeur débloquée sera si immense qu'elle créera la confiance.
D'accord pour le parallèle avec le cloud, mais jusqu'à un certain point seulement. La confiance dans le cloud, elle s'est bâtie sur la redondance, la sauvegarde, la récupération. Si un serveur tombe, un autre prend le relais et au pire, on restaure une sauvegarde. Quelle est la technologie équivalente pour un agent IA? Comment est-ce qu'on récupère d'une mauvaise décision de conception qui s'est déjà propagée dans tout le modèle du bâtiment? Il n'y a pas de bouton retour pour une analyse structurelle erronée qui aurait des conséquences potentiellement catastrophiques. La nature du risque est fondamentalement différente.
Je comprends la distinction, mais l'enjeu n'est pas l'absence de risque, c'est la gestion du risque. Un meilleur parallèle serait peut-être les systèmes de freinage d'urgence dans les voitures. Le risque d'une défaillance est gravissime, et pourtant la confiance s'installe progressivement grâce à des milliers d'heures de tests, des capteurs redondants, des garde-fous logiciels et une fiabilité démontrée statistiquement. L'approche sera la même pour les agents IA. Une montée en puissance progressive, sur des tâches de moins en moins triviales et encadrée par des protocoles stricts.
Et c'est précisément ce langage de la prudence qui me frappe. La présence sur scène du Chief Trust Officer d'Autodesk, venu parler de carte de transparence IA, de conformité à la norme ISO 42001, c'est très révélateur. On nous parle de garde-fous, de laisser le choix au client d'activer ou non les fonctionnalités avancées. Tout ce vocabulaire contredit l'idée d'une révolution imminente. C'est le langage de l'évolution prudente, de la gestion du risque à long terme, pas celui de la disruption à court terme. On avance sur la pointe des pieds.
Mais bien sûr qu'on avance prudemment. Personne ne suggère de déployer des agents pour concevoir des centrales nucléaires demain matin. Ces standards, ces garde-fous que vous décrivez, ce n'est pas un frein à la révolution. Ce sont les fondations sur lesquelles elle se construit. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et ça m'amène à notre troisième point. Où est la valeur immédiate? Vous semblez la voir uniquement dans l'amélioration de l'existant, comme le connecteur de Ramboll. Mais je soutiens que le travail sur les fondations de données, la granularité, l'accessibilité, ce n'est pas une fin en soi, c'est le carburant.
Là, je ne suis pas convaincue. La valeur est déjà là, dans ses fondations, avant même de rêver d'agents autonomes. Le cadre en bol est parfait. Ils n'ont pas attendu ni un miracle. Ils ont connecté Revit et Tekla et ils ont immédiatement éliminé un processus manuel, coûteux en temps et en erreur. C'est un gain mesurable dès aujourd'hui. Mon inquiétude, c'est que la vision grandiose des agents ne détourne les ressources de ces problèmes concrets qui, une fois résolus, apportent une valeur phénoménale. Il y a des centaines de problèmes Ramboll à régler.
Mon approche est différente. Je ne vois pas Ramboll comme la destination, mais comme la préparation du terrain. Ils nettoient leurs données, ils les rendent fluides. Pourquoi ? Pour qu'un moteur plus puissant puisse s'en emparer. Ce moteur, c'est l'agent IA. Sans ce travail, les agents sont impuissants. Le projet d'Arcadis, une autre société mise en avant, le montre parfaitement. Ils ont utilisé un agent IA pour analyser les données de conception. Résultat, 95% d'erreurs en moins. La vision produit déjà des résultats tangibles, dès que les données sont prêtes. Le travail sur les données n'est pas une alternative à la vision agentique, c'est son tremplin.
Même les cas d'usage que vous citez me semblent relever de l'augmentation des capacités humaines, plus que de leur remplacement. Le projet Open Space, qui crée des sortes de Google Street View pour les chantiers, c'est un autre bon exemple. Est-ce que ça remplace le chef de chantier ? Non. Ça lui donne des super pouvoirs. Il peut visiter le chantier à distance, vérifier l'avancement par rapport au modèle 3D, détecter les conflits plus tôt. C'est un formidable assistant, un copilote. Et c'est là, je crois, que se situe la véritable valeur pour les années à venir. Des outils d'IA qui travaillent avec le professionnel, pas à sa place.
Pour résumer ma pensée, le passage à cet écosystème de plugins piloté par l'IA, ce n'est plus une question de si, mais vraiment de quand. Les défis de confiance, bien que réels, sont des problèmes d'ingénierie qui seront surmontés, parce que la valeur qu'ils débloqueront sera trop importante pour être ignorée. Le travail actuel sur les données, que vous présentez comme une fin en soi, n'est en réalité que la construction de la piste de décollage. Les entreprises et les développeurs qui commencent dès maintenant à penser en termes de compétences modulaires pour les machines et non plus d'interface pour les humains seront les leaders de demain. La transition a déjà commencé.
Et de mon côté, pour conclure, oui, l'enthousiasme pour l'IA agentique est communicatif, je le comprends, mais je pense qu'il faut rester pragmatique. Le véritable progrès, celui qui aura un impact mesurable dans les 3 à 5 prochaines années, viendra du renforcement de ses fondations, de l'amélioration de l'interopérabilité entre les outils que les professionnels aiment et maîtrisent, et de la création d'IA qui agissent comme des copilotes intelligents. La confiance, qui est le pilier de toute adoption technologique dans ces domaines, ne se décrète pas. Elle se construit, lentement, par la fiabilité démontrée et non par des promesses de grands bouleversements qui visent à remplacer le jugement humain.
En somme, la discussion qui émerge de DevCom met en lumière cette tension fondamentale entre une vision révolutionnaire où la machine orchestre et la réalité pragmatique de son déploiement qui passe par des étapes incrémentales et une confiance durement acquise. Les deux chemins ne sont peut-être pas si opposés.
En effet, la question de savoir si nous nous dirigeons vers un avenir où les machines raisonnent pour nous ou si nous construisons un futur où elles raisonnent de plus en plus puissamment avec nous, elle reste donc ouverte. Et l'exploration de ces visions nous offre une matière riche pour contempler ces deux trajectoires.